nous lisons ce matin le psaume 66. Au chef de chœur, cantique, psaume. Lancez une clameur vers Dieu, habitant de toute la terre. Psalmodiez à la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes actes sont redoutables à cause de la grandeur de la force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et psalmodie en ton honneur. Elle psalmodie en l'honneur de ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les humains. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie. Il n'a pas exposé notre pied à chanceler. Car tu nous as sondés ou éprouvés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête ou sur notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai envers toi mes vœux. Ceux que mes lèvres ont exprimés et que ma bouche a prononcés dans ma détresse, je t'offrirai de gras holocaustes, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. C'est le langage de l'Ancien Testament, bien sûr. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a pu l'exalter. Et si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Amen. Nous allons regarder un petit peu ce psaume tout entier. Car en lisant ces versets, particulièrement les versets 9, 10, 12, jusque 12, qui relatent tant et tant d'épreuves différentes, je me rends compte que malgré l'approche des fêtes et la joie qui devrait être au rendez-vous et la bonne humeur, etc., il y a tant et tant et tant d'épreuves. Rien qui me parvienne dans les entretiens, les problèmes de santé, les problèmes de travail, problèmes de famille, sans compter au travers des médias, comme vous savez, nous sommes connus aussi à l'étranger, dans les pays, partout. Et suite à cela, il y a aussi des demandes de prière qui nous arrivent. Et les gens exposent leurs besoins, leurs attentes et leur détresse de tout genre. Et on est là, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire sinon prier? On pourrait prier toute la journée rien que pour ça. Et le Seigneur nous dit, c'est vrai, vous aurez des tribulations dans le monde, que ce soit Noël ou pas Noël. Noël n'arrête pas les tribulations ni les problèmes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Dieu veut que nous soyons justement dans une position de vainqueur qui nous permettra, dans la tribulation, d'émerger, d'apprendre quelque chose et de pouvoir, comme dit ce psaume, et c'est la note principale, de pouvoir le louer encore et toujours. Beaucoup se plaignent aujourd'hui du manque d'amour, du manque de justice dans la société, la dureté, du manque de considération. Et quelqu'un me le disait encore cette semaine, mais je répondais, mais pourquoi t'attends-tu à ce que le monde soit gentil avec toi? Il ne faut pas s'attendre que le monde soit sympa avec toi. Parce que le monde ne vit pas les principes de l'Évangile. Par contre, toi, tu dois les vivre et tu peux amener quelque chose dans le monde. Mais par contre, tu peux t'attendre à ce que dans l'Église, les principes de l'Évangile soient mis en pratique aussi pour t'encourager, te consoler, être à ton écoute, etc., te servir. Mais n'attendons pas que le monde soit transformé par l'Évangile. Il n'est pas transformé, pas encore. Et c'est notre travail, justement, et c'est l'Esprit de Dieu nous conduit à ce que le monde soit touché par la lumière dans les chrétiens, par la vie transformée des chrétiens. Mais n'attendons pas, ne soyons pas étonnés, comme dit l'apôtre Pierre, ne vous étonnez pas de ce que vous êtes dans une fournaise ardente. C'est juste normal. Ça a toujours été comme ça pour les croyants. qui, malgré leur vie correcte, ont subi des épreuves, ont supporté des choses difficiles. Ça a toujours été comme ça, et ce n'est pas anormal. Par exemple, l'apôtre Paul va dire dans Actes 14, lorsqu'il passait d'église en église dans son voyage missionnaire, il encourageait les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les tribulations font partie du programme. Et je pense que ce matin, dans ce psaume, nous trouvons quelques éléments d'enseignement pour nous, quelque chose qui va être des rappels précieux. Ce psaume n'a pas d'âge, d'ailleurs il n'a pas non plus d'auteur. On ne connaît pas l'auteur de ce cantique. Est-ce que c'était David ou quelqu'un d'autre? Ça veut dire que c'est un psaume universel. Ce n'était pas juste l'expérience de David, ça peut être ton expérience aussi, ça peut être la mienne. Les psaumes ont été écrits, on va dire, du temps, admettons que ce soit du temps de David, ça fait moins 1000, donc ça fait 3000 ans d'ici. Ce psaume résonnait déjà, parlait déjà au peuple d'Israël. Et je prie, ma prière, c'est que ce psaume, 3000 ans après, résonne encore dans notre église ce matin et puisse nous édifier. Avez-vous remarqué la structure de ce psaume, qui est déjà un enseignement intéressant? D'abord, il est dit que, dans les premiers versets, il est question, mais que tous les habitants de la terre puissent louer Dieu, que la terre entière se prosterne devant Dieu. Il y a un appel que la terre, que le monde loue Dieu. La nature parle des merveilles de Dieu, elle loue Dieu. D'abord, c'est le monde. Ensuite, dans les versets suivants, par exemple, au verset 9, 10, etc., eh bien, c'est nous, c'est la communauté. Nous avons été sondés, nous avons été éprouvés, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, c'est pas mis sur mes reins, sur nos reins, tu as fait chevaucher des hommes sur notre tête, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Il y a le nous, la communauté. Je ne suis pas seul. Certaines personnes me disent, mais c'est terrible ce que je vis, et j'ai dit encore à quelqu'un cette semaine, ce que tu vis, c'est du copier-coller d'une histoire que j'ai déjà entendue au moins deux fois. Tu n'es pas seul à vivre ça. C'est exactement la même chose pour quelqu'un d'autre, exactement. Nous, c'est la communauté des croyants qui est éprouvée. Et ensuite, vers la fin, verset 13 et suivant, « Moi, j'irai à la maison de Dieu avec l'Holocauste. Je t'offrirai quelque chose, Seigneur. Si moi, j'avais eu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a écouté, moi. » Pas seulement la communauté, mais Dieu m'a écouté, moi. Il a regardé ma vie. Il a été attentif à ma prière. Il n'a pas écarté ma prière et sa bienveillance. Et sa bienveillance n'a pas été loin de moi. Avez-vous remarqué, ça commence par le monde. Ensuite, c'est la communauté. Et ensuite, je termine par le je. Nous avons tendance aujourd'hui à inverser un peu les choses. C'est d'abord le je au centre. C'est moi qui suis important, c'est moi qui ai des besoins, des problèmes, c'est moi qui veux la bénédiction, c'est moi qui veux que Dieu intervienne vite fait. Après, on prie pour les autres, après... Mais nous avons ici une instruction intéressante. Détournons-nous de nous-mêmes. Appliquons les principes de la parole de Dieu de la bonne manière et nous verrons des bons résultats dans notre vie. Lorsque nous sommes centrés sur nous, nous nous acharnons et demain il y aura un autre besoin et je vais de nouveau venir, mais... Soyons libérés ce matin dans le sens de la parole de Dieu. Que cette parole nous soit libératrice au nom de Jésus. Qu'elle soit libératrice, que nous puissions voir d'abord le monde qui a été créé par le Seigneur adore le Seigneur. Est-ce que je fais partie du monde? Alors toi aussi. Monde, peuple, tous les peuples. Nous sommes des peuples représentés. Si vous représentez votre nation, votre ethnie, votre pays, vous faites partie, vous dites... Louons le Seigneur ensemble, prosternons-nous devant lui. Le diable voudrait faire taire la louange et les témoignages. Il est dit à deux, trois reprises qu'il faut raconter. Par exemple, verset 16. « Venez, écoutez, vous tous, je raconterai ce que Dieu a fait pour mon âme. Je raconterai. » Le diable voudrait faire taire la louange et le témoignage. Il ne supporte pas que Dieu soit honoré et glorifié. Ça le met en fureur. Soyons encouragés à témoigner. Je trouve que trop de personnes vivent des belles choses avec Dieu, mais sont très timides pour témoigner, sont très réservées pour témoigner. Est-ce que nous pourrions être davantage libérés au niveau du témoignage. Rendons gloire à Dieu. J'aimerais que ce soit une note aussi qui résonne régulièrement dans notre Église. Rendons gloire à Dieu en racontant ces hauts faits. Le psaume nous y encourage. Faisons taire les mensonges du diable qui dit « Mais tu n'as rien à raconter, tu n'as rien vécu. » Ou bien c'était juste ton imagination, ou bien c'était un hasard que ça se passe comme ça. Ou bien déjà, ben, ça s'explique que ça se passe comme ça. Ne réduisons pas les actions de Dieu à un rien du tout, à une explication humaine. Ne laissons pas tomber le témoignage par terre. Soyons comme Samuel qui était celui qui disait qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Soyons des chrétiens qui témoignent, des chrétiens qui racontent les merveilles du Seigneur. Alors, nous ne voulons pas nous laisser intimider. Ce que nous avons entendu, dit le psaume 78, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, c'est ça que nous voulons raconter. C'est ça que nous voulons raconter à la génération suivante. Frères et sœurs, vous avez quelque chose à raconter. Même si vous n'avez pas le témoignage de Nicky Cruz, que vous n'avez pas eu une expérience incroyable à raconter, nous avons tous un témoignage. Si vous avez vécu quelque chose avec Dieu, racontez-le. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Quelqu'un a besoin d'entendre votre histoire, parce que votre histoire est précieuse dans l'ensemble des témoignages que le monde a besoin de connaître, dans le nom de Jésus. Votre témoignage compte. Racontez le témoignage du Seigneur. Oui, l'encouragement à la louange qui est le début de ce psaume, qui est le premier paragraphe, le premier bloc de ces versets 1 à 6, c'est que la louange, ce ne doit pas être juste quelque chose au programme du culte. Ça doit être une note de base du chrétien. Une note de base du chrétien. Louons le Seigneur. Apprenons ensemble à le louer, mais louons le Seigneur individuellement, en permanence. Comme le monde nous encourage. Il est dit dans le psaume 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste sa connaissance. Ajoutons notre voix à celle de la création. Ajoutons notre voix, notre cœur, à la louange des anges. Ajoutons notre voix à ceux qui savent bien louer le Seigneur. Accrochons notre wagon à leur locomotive. Laissons-nous entraîner par ceux qui louent le Seigneur. Il faut que nous soyons les uns les autres ceux qui entraînent d'autres et qui encouragent d'autres à l'adoration, à louer Dieu. Mes frères et sœurs, cela est possible uniquement par la vie et la puissance du Saint-Esprit, parce que lorsqu'on est dans l'épreuve, avec nos forces humaines, on ne peut pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas à décoller dans la louange, on n'arrive pas. Il faut la vie du Saint-Esprit pour cela. Est-ce que vous avez soif de cette vie du Saint-Esprit, cette vie surnaturelle? La vie de Dieu est une vie surnaturelle, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Par le Saint-Esprit, nous pouvons louer encore et toujours dans les épreuves, dans les tribulations et même dans la souffrance. Parce que le Saint-Esprit a mis en nous quelque chose qui ne peut pas être muselé, qui ne peut pas se taire, qui ne peut pas être brisé. La vie de l'Esprit triomphe toujours. La vie de l'Esprit triomphe toujours, c'est une déclaration que je fais ce matin. Rendez grâce en toutes choses, nous dit l'apôtre Paul encore. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, en toutes choses. Malgré la tribulation de cette semaine, malgré le mauvais diagnostic médical, malgré qu'au travail ça ne va pas, je rends grâce et je veux pas autoriser que l'ennemi se réjouisse à mon sujet, qu'il dise « Ah, maintenant il est cassé, il est brisé et il ne témoigne plus, il ne loue plus le Seigneur. » Nous voulons ce matin nous lever pour dire au nom de Jésus « Je me lèverai pour louer encore, je me lèverai pour raconter encore, je me lèverai pour prier encore, je rendrai encore gloire à Dieu, même si je suis par terre, même si j'ai plus de force, l'Esprit de Dieu en moi fera le nécessaire. » Quelque chose de particulier alimente la louange de ce psaume. Verset 6, il nous est dit qu'il changea la mer en une terre sèche. Il y a quelque chose dont il faut toujours faire référence et qui alimente ma louange. Qu'est-ce que c'est? Pour Israël, c'était la délivrance de l'Égypte, le passage de la mer Rouge. Ça a été la plus grande histoire de délivrance de tout Israël, de toute son histoire. Et Dieu voulait que ce souvenir soit gardé. À quelle fête? À quelle fête est-ce qu'on se souvient de la délivrance de l'Égypte? C'est la fête de la Pâque, n'est-ce pas? C'est le souvenir de la délivrance où Dieu a délivré son peuple bien-aimé de la mainmise de l'Égypte pour l'amener d'abord dans le désert, mais ensuite dans le pays promis. Ce changement de royaume, c'est la base de notre louange. Notre salut en Jésus-Christ, c'est la base de la louange. La croix, c'est la base de la louange. Elle est un peu cachée, mais elle est toujours là. Elle est là dans nos vies, elle est là, elle existe. La croix de Jésus, son sacrifice, sa rédemption, c'est la base de ma louange. Si tu ne sais plus louer Dieu, tu regardes à la croix. Tu regardes la plus grande délivrance de l'histoire. C'est la délivrance de la puissance du péché et la puissance diabolique. La victoire ultime de Jésus sur la croix et sa victoire manifestée le matin de Pâques, eh bien, c'est la base pour notre louange, une louange éternelle qui ne s'arrêtera même lorsque ma bouche va se taire, lorsque je meurs, lorsque je suis enterré. Elle continuera parce que mon âme continuera à chanter. Alléluia! Il change à la mer en une terre sèche. Et il faut faire référence à cette délivrance-là pour que je puisse encore le louer. Et ensuite, il est dit, ils ont traversé le fleuve à pied. Ça fait référence à autre chose, mes amis. Avez-vous entendu cela? Traverser le fleuve. La mer Rouge, ce n'est pas un fleuve, c'est une mer. Mais lorsqu'ils sont sortis du désert et lorsqu'ils sont entrés en Canaan, ils sont encore passés par une mer qui s'est écartée. C'était le fleuve du Jourdain, dont Josué s'est marqué. Donc en fait, il y a eu deux fois des délivrances au travers de l'eau. C'était vraiment un passage d'abord du royaume des ténèbres au royaume de la liberté, de l'Égypte à la liberté, de l'autorité de Pharaon à l'autorité du Seigneur. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est entrée vraiment dans le pays promis. Et ça veut dire « j'entre dans mon héritage ». Alléluia ! J'entre dans mon héritage, j'entre dans ce que j'ai reçu en Christ. Et là, le diable ne veut pas non plus que tu passes le Jourdain et que tu n'arrives plus à te réjouir et que tu n'arrives plus à louer. Mais fais référence à ces deux choses, la délivrance du péché et aussi ta position en Christ, ton héritage en Christ, alors que tu passes le Jourdain qui va arrêter pour que te laisser passer. Et ce matin, le Saint-Esprit te dit, mais le fleuve du Jourdain est à sec pour que tu passes dans le pays promis et que tu goûtes aux fruits du pays promis et que tu connaisses la bénédiction du pays promis et que tu connaisses le règne du Seigneur dans ta vie au quotidien afin que tu puisses témoigner, tu puisses amener porter ta grappe, des fruits, quelque chose de bien qui étonne les autres qui ne connaissent pas ça. Réjouissons-nous de notre position en Christ, de notre héritage en Christ. C'est un fondement pour notre louange. Ça, c'est les 6 premiers versets. Alléluia. C'est là que nous nous réjouissons en lui. C'est marqué à la fin. Il a changé la mer en une terre sèche. Il a traversé le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Est-ce qu'on veut le dire ensemble? C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Dans ces deux délivrances, la rédemption et notre héritage en Christ. Maintenant, nous passons à la suite où, justement, il y a un descriptif de toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'épreuves. La louange dans l'épreuve, comme je l'ai dit, il faut la vie de Dieu pour que ça fonctionne vraiment. Quand on est porté dans l'épreuve d'une manière surnaturelle, parce que c'est comme ça que ça s'explique, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais quelque chose vous a porté dans l'épreuve. C'est Dieu lui-même. Et Dieu, par ces 6 premiers versets qui sont une déclaration de victoire et je dirais une louange cosmique, universelle, planétaire, eh bien cela ne nous dispense quand même pas de passer dans les épreuves. Écoutez, tu nous as éprouvés. Tu nous as éprouvés comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Et même, tu as fait peser sur nous un fardeau pesant. Tu as fait monter sur notre tête des hommes. Peut-être que vous souffrez justement de ce que des gens au-dessus de vous ont une mainmise sur votre vie. Ils sont en train de chevaucher sur vous. Vous êtes soumis à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Par plus fort que vous, vous êtes soumis à ces choses. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais lorsque je traverserai les fleuves, je ne serai pas submergé. Lorsque je traverserai le feu, je ne me brûlerai pas, dit Ésaïe 43. Avez-vous remarqué que quelque part ces épreuves ne sont pas dictées par Dieu, mais sont permises par Dieu? J'aimerais bien souligner cela. Dieu n'est pas l'auteur de choses méchantes. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, c'est clairement écrit dans Jacques. Par contre, Dieu peut utiliser une épreuve pour un but. Dieu peut permettre qu'on traverse quelque chose, mais toujours dans un but. Et ce but, entre autres, il y en a d'autres, mais celui-ci qu'on veut retenir, c'est il nous a éprouvés comme l'argent. On a souvent utilisé cette image, la purification d'un métal précieux pour qu'il augmente de valeur se fait par une fournaise, par un four. Lorsque vous chauffez la masse métallique qui est mélangée à de l'impureté, lorsque vous la chauffez, lorsqu'à un moment donné elle arrive au point de fusion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les impuretés montent à la surface et on peut les enlever tout ensemble. Et ensuite, l'or, l'argent et d'autres métaux sont ainsi purifiés, se refroidissent et peuvent être vendus plus cher. Au lieu que ce soit du 9 carats, ça devient du combien? Du 18, puis du 24. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Je lis avec vous 1 Pierre 1, 7. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or. Pierre fait référence à ce que je viens de raconter. Plus précieuse que l'or. Versets 6 et 7. Je vais d'abord tourner dans ma Bible pour le trouver et le lire exactement. 1 Pierre, chapitre 1. C'est un texte qu'on peut vraiment souligner dans nos Bibles. Et Pierre commence son épître en disant cela, que vous êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut qui sera révélé. D'abord, Dieu nous dit, je te garderai dans l'épreuve. Et vous êtes dans la joie. Ça rejoint un petit peu le psaume 66. Quoique maintenant, et regardez deux choses que vous pouvez souligner, pour un peu de temps, alléluia, pour un peu de temps, première chose qu'on souligne. Deuxième chose qu'on souligne, puisqu'il le faut. Certaines choses, frères et sœurs, écoutez bien, certaines choses nous sont imposées. Mais Seigneur, je veux la liberté, je ne veux pas de ça. Mais Dieu te dit, c'est comme avec nos enfants. Certaines choses sont obligatoires pour grandir, pas pour détruire, mais juste pour grandir, juste pour glorifier. Si Dieu veut choisir de se glorifier dans ta vie au travers de l'épreuve, est-ce que nous sommes d'accord ce matin de l'accepter? Parce qu'il nous est dit dans ce texte, tu nous as, c'est Dieu qui a autorisé l'épreuve, c'est Dieu qui a autorisé les circonstances, et même Satan, le livre de Job nous le dit, il autorise dans sa souveraineté, sa puissance, il autorise Satan à faire quelque chose, jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. Il autorise, son cœur est serré, peut-être qu'il pleure, peut-être qu'il tremble, mais il autorise que ses bien-aimés soient sous pression, vivent une épreuve, versent des larmes, sont serrés, vivent des choses difficiles et souffrent. Et nous pouvons tous raconter, frères et sœurs, que nous avons les uns les autres des cicatrices, des bleus à notre cœur, que nous avons des stigmates de la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut dire ici ce matin, moi j'ai jamais rien eu, j'ai jamais eu aucun problème dans ma vie? Nous portons tous des choses qui sont le passage de l'épreuve, l'expérience mauvaise et la souffrance, nous portons des cicatrices. J'en ai aussi comme vous. Je porte des bleus, des coups, des choses où je n'ai pas eu d'explication. Mais Dieu les a autorisées. Dieu les a permis. Il nous a dit, tu nous as éprouvés, Seigneur. Et ce matin, je réponds, je ne veux pas me révolter, Seigneur. Tu nous as éprouvés comme l'argent pour en sortir quelque chose de précieux. Et le texte de Pierre va dire, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ reviendra. Voilà le but. La louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus reviendra. Il nous éprouve pour un but. Je ne connais pas le but, je ne vois pas comme Dieu voit, mais Dieu voit les choses et je lui fais confiance. Mes amis, faites-lui confiance dans l'épreuve. Tu nous as amenés dans le filet, Seigneur, mais je ne veux pas être dans ce filet. Je veux déchirer ce filet et je prie au nom de Jésus, filet, déchire-toi. Épreuve, recule. Satan, recule. Parfois, nous prions comme ça, mais l'épreuve est restée quand même. Un certain temps, tu as mis sur nous un pesant fardeau et parfois nous nous promenons avec un fardeau qui n'est pas parti avec une prière. Il est resté. Tu nous as imposé ce fardeau, Seigneur. C'est marqué. Tu nous as fait passer par le feu et par l'eau. Mais je n'ai pas envie, je ne sais pas bien nager, Seigneur. Et je ne suis pas un bon pompier pour le feu. Mais tu me fais passer quand même par le feu et par l'eau. mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Alléluia. Tu nous en as fait sortir, Seigneur. Je suis plus petit, je suis plus humble, je suis devenu un homme brisé. Je n'ai pas peur de le dire. Dans ma vie, j'ai des brisures, des cassures, mais je suis debout par la grâce de Dieu. Et je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer. Ce n'est pas une foi triomphaliste, c'est une foi authentique. Parce que c'est la vie de Dieu qui nous soutient. C'est sa main qui nous a soutenus. Rien d'autre, c'est sa grâce. Tu nous en as fait sortir pour nous donner la vie en abondance. Ma vie a augmenté de qualité. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des souffrances. Regardez les trois amis de Daniel. Regardez ça. Ils ont choisi de ne pas... Ils ont choisi l'intégrité. Ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas été hypocrites. Ils ont dit, ben nous on adore Dieu, quoi qu'il arrive. Et voilà qu'ils atterrissent dans ce fourneau. Ils atterrissent dans ce four surchauffé. Et là, humainement, c'est cuit pour eux. C'est cuit pour eux, c'est perdu. Ils sont morts, ils sont anéantis. Mais Dieu a son plan. Il ne veut pas seulement les sauver, mais il veut que son nom soit glorifié devant tout le peuple des Babyloniens et que son nom soit connu. Parfois, les épreuves nous donnent une occasion supplémentaire de témoignage. Moi, je peux vous dire que dans certaines épreuves, j'ai eu plus d'occasions de témoignage que lorsqu'il n'y avait pas d'épreuves. J'ai pu raconter plus de choses. J'ai eu plus de contacts, plus de choses où les gens ont été touchés parce que j'ai vécu ce qu'eux vivent. Et on rejoint plein de gens à cause des épreuves, justement. Et ensuite, ces trois amis dans l'épreuve, tout à coup, qu'est-ce que le texte nous dit ? Qu'il y avait un quatrième, le fils de l'homme qui était avec eux dans le feu. Et pour lui, le feu, c'était froid. Il ne se passait rien, il n'était pas touché. Personne n'était touché. Quand Jésus est avec vous, il ne permet pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, 13, il faut connaître ce verset. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Alléluia. Dieu est fidèle. Dans l'épreuve, il était là avec les trois amis de Daniel. Et il était là. Et à un moment donné, ils ont... L'ennemi a été tellement étonné de voir ce qui se passait qu'ils sont sortis. La seule chose qui avait brûlé, c'était les liens. Les liens posés par les hommes. Les liens, les filets posés par les hommes, c'est ça qui a brûlé. C'est ça qui... Ils étaient en fait libérés du poids, des tentations, des épreuves posées par les hommes. Tout ce que les gens veulent poser sur vous, au travers de l'épreuve, vous allez être libérés de ces choses. Libérés de ces choses. Les liens sont coupés, pourvu que les liens intérieurs soient tous dénoués et que nous puissions louer Dieu. Et ces trois amis étaient bien sûr plus forts, ils ont été récompensés, etc. Vous connaissez l'histoire. Et je termine par le dernier thème de ce psaume, courtement, très courtement. Dieu entend ma prière personnelle. J'irai dans la maison avec des holocaustes. Avec tout ça, il y a cette notion... Verset 16, « Venez, vous tous qui craignez Dieu. » Vous savez, au travers de l'épreuve, nous commençons à craindre Dieu. Ce n'est pas du spectacle. Vous savez, lorsque vous êtes éprouvé, vous n'aimez plus le spectacle. Je ne sais pas si, lorsque vous êtes dans la souffrance, est-ce que vous aimez sortir, aller danser, aller voir des films, aller vous amuser ? Non. Lorsqu'on souffre, on n'a pas envie de ces choses. La louange des 6 premiers versets, la louange planétaire, de la création devient ma louange personnelle. Et le psalmiste va dire, Seigneur, moi je viens non plus les mains vides et le cœur vide devant toi, je viens avec un holocauste, je viens avec un sacrifice. Je viens t'offrir le sacrifice de ma louange, le sacrifice. Ça coûte quelque chose, ça coûte quelque chose. Peut-être ce matin, vous avez commencé à louer, vous avez vraiment loué Dieu et ça a été dur pour vous parce que c'est un vrai sacrifice. Mais vous l'avez fait, bravo. Vous l'avez fait. Et même s'il n'y avait pas eu de musique, vous l'aurez quand même fait. Parce que la louange, c'est quelque chose de juste. Dieu mérite toujours la louange. Et je t'offre, Seigneur, l'holocauste, ça veut dire, Seigneur, je viens les mains vides de moi, mais je viens avec l'agneau de Dieu dans mes mains et je m'approche de toi, Seigneur, avec le sacrifice de Jésus. Je viens avec Jésus. Je viens avec lui dans la louange. Et je loue Dieu pour son Fils qui a donné sa vie pour moi. Je viens avec l'Holocauste dans la présence de Dieu. Je suis rempli de cette présence de Jésus. et je pense à la croix, je médite sur la croix et je suis rempli de l'œuvre de rédemption merveilleuse que le Seigneur a faite. Et je viens dans la maison de Dieu avec l'Holocauste qui est dans mes bras. Il me tient dans mes bras et je le tiens dans mes bras. Amen. C'est ça le psaume. Et la crainte de Dieu augmente en moi, je le respecte tellement. Il a permis que je sois éprouvé. Seigneur, merci parce que je ne me suis pas révolté contre toi. J'ai pleuré, je n'ai pas compris, mais Seigneur, aujourd'hui je suis en train de me relever et je suis libéré de la révolte, libéré de la colère, libéré de cette mauvaise image de Dieu. Où le diable voulait dire, tu vois, Dieu n'est pas bon pour toi. Je suis libéré de ça. Tu vois, Dieu ne t'a pas secouru. Je suis libéré de ça, ce n'est pas vrai. Tu vois, tu ferais mieux de te taire, tu n'as rien à raconter. Non, je raconterai les merveilles du Seigneur. Je suis libéré, je suis dans la crainte de Dieu. Et terminons par ces versets qui nous disent, Dieu m'a écouté. La seule chose que je retiens encore, verset 13, j'accomplirai envers toi mes vœux. Ce que mes lèvres ont exprimé, ce que ma bouche a prononcé dans ma détresse, je t'offrirai des holocaustes. Ça veut dire, Seigneur, je vis dans la vérité. Je termine par là. Il faut que nous soyons décidés de nous éloigner de toute forme de tricherie et de mensonge. Je veux vivre dans la vérité. Mon oui doit être un oui. Et mon vœu, mes promesses, je vais les tenir. Ce que je dis, j'ai une parole. Combien nous souffrons dans ce monde, on dit, ah oui, mais on va vous rappeler, n'est-ce pas? Est-ce que les gens vous rappellent la plupart du temps? 99 fois sur 100, ils ne rappellent pas. On ne dit pas la vérité. Partout, nous sommes tout le temps pris dans des mensonges. Mais dans mon cœur, dans ma vie, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Est-ce que nous voulons dire ça ce matin? Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre ma vie dans la vérité. J'accomplirai envers toi mes vœux. Ça veut dire je suis vrai, je suis correct, je suis droit, je suis intègre. Même si ça me coûte. Comme les amis de Daniel. Même si ça me coûte. Alors je termine par un témoignage. J'ai changé volontairement les noms, mais c'est un témoignage de l'Église quand même. Il n'est pas tout récent, mais il est d'ici. C'est une partie du témoignage, ce n'est pas tout, mais juste pour vous dire. Un jour du mois de mars, dans le courrier, nous trouvons une lettre de ma sœur, avec laquelle nous n'avions plus de contact depuis quelque temps, en raison des querelles qui existent d'ailleurs dans les meilleures familles, surtout quand il y a 9 frères et sœurs. Elle nous écrivait que Dieu, dans sa grande bonté, l'avait guérie, qu'elle voulait à présent vivre dans une vraie vie chrétienne et que le devoir d'un vrai chrétien était de faire la paix avec sa famille et ses amis. Et elle nous écrivait donc pour demander pardon. Et elle désirait nous revoir. Ma femme et moi, nous avons dit en cœur qu'elle n'allait déjà pas très bien avant, mais que là, vraiment, elle était devenue complètement folle. Aller dans une église, maintenant, elle n'était plus du tout fréquentable. Un dimanche du mois de juin de la même année, j'ai eu la surprise de voir ma sœur et son mari en grande conversation avec mon épouse. Ils sortaient du culte d'ici. Ils sont venus nous rendre visite. J'ignorais alors que mon épouse avait répondu à la fameuse lettre de demande de pardon longtemps après que nous l'ayons reçue. Elle m'a expliqué plus tard que la lettre lui avait donné à réfléchir et que ma sœur nous demandait quand même encore pardon, surtout qu'elle parlait de Dieu. J'ai alors eu droit au récit détaillé de la guérison miraculeuse de ma sœur, guérison divine, affirmait-elle. Elle souffrait du pancréas, maladie qui, paraît-il, ne pardonne pas. Les médecins lui avaient dit la vérité, c'est-à-dire qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Elle n'avait plus le droit qu'à une biscotte et une tasse de thé le matin, un poisson maigre à midi et le soir. Elle avait même songé de se suicider parce que, disait-elle, elle ne voulait pas, pardonnez-moi, crever à petit feu devant son mari et sa fille. Elle nous a fait rire en racontant que, comme elle cuisinait tous les jours pour son mari et sa fille, quand elle les voyait ingurgiter la nourriture, elle avait souvent envie de se mettre en colère, de crier au pire. Elle avait des crises atroces, de plus en plus rapprochées. Elle n'en pouvait plus. Elle maigrissait à vue d'œil. Un jour, dit-elle, je me trouvais chez ma coiffeuse. Et tout à coup, j'ai eu une forte crise. Immédiatement, la coiffeuse et son mari se sont mis à prier pour moi, à haute voix, avec toute la ferveur de la foi, devant tous les autres clients qui se trouvaient dans le salon de coiffure. Je me suis senti soulagé immédiatement, mais étonné de les voir ainsi prier devant tout le monde. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient membres d'une église où, entre autres, on priait pour les malades. Alors, puisque j'étais malade, qu'ils n'allaient pas attendre dimanche prochain pour prier pour moi. Et ils l'ont fait tout de suite. C'est à cause de cela que le dimanche suivant, son mari et elle donc sont allés dans cette église. Toute l'assemblée a prié pour eux. Et j'ai été complètement guéri, dira-t-elle. La preuve, je suis toujours là. En fait, je peux manger de tout. Les médecins n'en revenaient pas, mais ils ont bien été obligés de constater la guérison totale. Alléluia. Ce n'est qu'une partie du témoignage, parce que au travers de ça, quelque chose a été réveillé dans cet homme qui a mis Dieu à l'épreuve lui-même. C'était un homme qui était dur et ne voulait rien entendre, mais il a mis, au travers de cette guérison de sa sœur, il a été interpellé et il a mis Dieu à l'épreuve. Peut-être que je vous raconterai l'histoire, la suite. Ce sont des gens de notre Église. Amen.